Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc dans ces dimanches après l'Épiphanie, dimanche en vert, dimanche d'espérance, avant de quitter véritablement ce temps de la Nativité, ce temps de l'Épiphanie, avec la fête du 2 février. Nous devions persévérer, nous devons persévérer à garder la crèche chez nous jusqu'à ce jour du 2 février et de la présentation de l'enfant Jésus au Temple pour que ce mystère de l'incarnation soit bien ancré dans notre âme. Est-ce que nous avons pris du temps pour nous recueillir devant une image de Jésus enfant, devant une crèche bien faite chez nous? Est-ce que nous avons négligé dans cette fin d'année et dans ce début d'année de nous tourner vers ce miracle tout particulier de l'incarnation d'un petit bébé qui est Dieu? Aujourd'hui, il nous est proposé de voir cet enfant dans sa puissance divine, une puissance divine qui vient nous réconcilier avec son Père. Saint Paul nous invite à vivre en paix les uns avec les autres et à réserver la justice la plus stricte à Dieu. Et notre Seigneur, dans l'Évangile, lui, pardonne. Pardonne à travers des miracles physiques. Oui, avant même de se manifester de plus en plus clairement et de plus en plus de manière nette et forte, en affirmant qu'avant qu'Abraham fût, il était, eh bien, Jésus, lui, commence ses miracles avec simplicité, en quelque sorte. Il transforme l'eau en vin, comme il transformera le vin en sang pour la perpétuation de son saint sacrifice. Et aujourd'hui, un lépreux s'approche de lui et lui demande d'être purifié. Vous le savez bien, la lèpre est le signe du péché. Et si nous pouvions regarder notre âme dans son intimité, nous pourrions voir ses obscurités et ses laideurs lorsque nous sommes mauvais, mesquins, menteurs. Alors cela peut être une obsession, une maladie qui peut être excusée. Mais si nous sommes assez conscients du mal que l'on fait par nos paroles, par nos gestes, eh bien, nous sommes invités véritablement à nous convertir. Et ce mal que nous pouvons faire abîme ces relations humaines, alors que notre nature est faite pour connaître, aimer, être aimé. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Et Jésus, lui, donc, en quelque sorte, pardonne à ce lépreux ses péchés. Bien souvent, il dira « Va et ne pêche plus » à des personnes qu'il a guéries, alors que la maladie n'est pas toujours, bien sûr, le signe de l'état de notre âme et qu'il y a des innocents qui sont malades et accablés par la croix de la maladie. Mais aujourd'hui, c'est le centurion qui, lui, a une âme pure. Il est romain, il est l'occupant, il est en terre d'Israël et il se tourne vers ce prophète du peuple qu'il côtoie depuis tant d'années. Et malgré les raideurs de certains d'entre eux, eh bien, il a trouvé une bonté et une bienveillance dans les 10 commandements et dans la finesse des prophètes. Oui, le voilà qui demande à cet homme de Dieu juif de guérir son serviteur. Et quelle bonté pour ce maître qui se soucie de la santé d'un homme à son service et qui a fini par être son ami. Alors, le Christ le met à l'épreuve indirectement, N'oublions pas que Jésus a la science divine. N'oublions pas que Jésus sait ce qu'il va dire. N'écoutez pas les commentateurs de la Sainte Écriture, des exégètes, qui vous disent que Jésus découvre des choses. Jésus est Dieu. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce que le centurion lui demande. Et il va lui demander, il le connaît. Mais Jésus place ses mots pour susciter cette foi dans ce centurion. Je vais chez toi. Et de la même manière qu'il a guéri ce lépreux en le touchant, il lui propose de toucher son serviteur, comme il a touché la fille de Jaïr, qui était morte, et qu'il a relevée en la prenant par la main. Lorsqu'il ressuscite le jeune homme, il pose la main sur la civière. Lorsqu'il ressuscite Lazare, il parle. Et voici que ce centurion lui dit, peut-être, ce sont les exégètes qui vont ajouter ça, mais ce n'est pas tout à fait faux pour cette fois-ci. Eh bien, les païens savent que les juifs n'entrent pas sous le toit des païens. Et lors du jugement sous Ponce Pilate, les prêtres restent à l'extérieur pour ne pas être souillés pour la Pâque. Et donc, ce centurion, peut-être par délicatesse pour cet homme de Dieu, ce prophète juif, ne souhaite pas qu'il vienne sous son toit, qu'il provoque peut-être un scandale. Mais surtout, c'est son humilité, c'est sa simplicité qui fait qu'il ne veut pas que cet homme de Dieu vienne, se dérange jusqu'à lui. Puisqu'il est un homme de Dieu, il peut prier. Et Dieu lui accordera la grâce de sa prière. Alors Jésus est heureux. Il est heureux parce que il vit dans sa nature humaine, dans son intelligence, dans son âme, ses paroles, cette rencontre qu'il connaît de toute éternité en tant que Verbe divin. Quand Jésus pleure, quand Jésus s'exclame, lorsque Jésus montre une grande joie, alors même qu'il savait de toute éternité que ces moments arriveraient, c'est parce qu'il les vit dans sa nature humaine. C'est comme un enfant qui, à chaque vacances, passe une semaine chez ses grands-parents. Et lorsqu'il revient, il saute au cou de sa maman. Mais ça fait déjà 5 ans qu'il passe ses vacances chez ses grands-parents. Pourquoi à chaque fois il saute au cou de sa mère? Il sait qu'il va voir sa maman. Il devrait passer à côté d'elle en disant « Bonjour maman, c'est normal, je te retrouve au bout d'une semaine. » Non, ce n'est pas parce que vous savez, vous connaissez le futur, que lorsque ce futur arrive, vous ne le goûtez pas intensément. Et Jésus, lui, goûte intensément cette humilité, cette bonté de cette créature, de cet être qu'il a créé lui-même et qui lui rend cet amour, cette bonté qu'il a dans l'âme. Alors Jésus, homme, Jésus, Dieu, se réjouit profondément. Et il dit, de l'Orient et de l'Occident viendront ces hommes, ces femmes, ces enfants de bonne volonté. Et ceux qui ont eu l'annonce de la révélation depuis des siècles, depuis Abraham, depuis notre baptême, et si nous sommes infidèles à cet amour, à cette bonté, à cette bienveillance, eh bien, notre cœur de pierre refusera le paradis, refusera la vie divine, et nous serons dans les ténèbres extérieures. C'est la raison pour laquelle saint Paul nous dit de nous convertir, il nous dit de nous aimer les uns les autres, il nous dit de pardonner, d'accumuler des charbons ardents sur la tête de nos ennemis en étant le plus juste possible avec eux et le plus miséricordieux possible. À nouveau, Jésus Notre foi catholique ne nous demande pas d'être idiots, ne nous demande pas de nous faire souffrir par la persécution de nos ennemis, en souhaitant qu'ils soient en bonne santé corporelle et physique, qu'ils aient de l'argent et qu'ils puissent faire le plus de mal possible. Aimer son ennemi, c'est demander à Dieu qu'il se convertisse, qu'il arrête de faire le mal. Et dans la mesure du possible, si nous pouvons conquérir l'âme de celui qui nous a fait du mal, qui nous a menti, qui nous a déçus, qui nous a trahis, en suscitant chez lui des excuses ou un acte, un pas, eh bien nous aurons gagné une âme. Même si parfois, comme dans la guerre, nous devons prendre les armes contre ceux qui attaquent notre pays. L'objection de conscience est fausse lorsque nous laissons des innocents dans notre pays être persécutés par ceux qui veulent l'envahir. Nous devons nous défendre et parfois nous écarter de personnes malicieuses et mauvaises. Mais quelle souffrance lorsque l'on connaît notre nature humaine qui est faite pour la paix, pour aimer et être aimé, et surtout en famille. Alors, ce matin, demandons à Sainte Geneviève cette fidélité à la foi, à l'espérance et à la charité. Elle a vu Paris assiégé. Les Huns n'étaient pas particulièrement inclinés à se convertir. Mais le père de Clovis et Clovis lui-même ont fait du mal à Paris. N'y a-t-il pas des Parisiens qui sont morts de faim par ces privations? Lorsque Sainte Geneviève est partie chercher de la farine, que le pain a été fait, que les pains ont été donnés, comme ceux qu'on a bénis hier dans la veillée, eh bien, elle aurait pu avoir le cœur endurci et refuser toute relation avec Clovis. Et ses liens avec Sainte Clotilde ont vaincu ce païen, Fier Sicambre, qui a finalement adoré ce qu'il avait brûlé dans ses batailles, dans ses razzias, et le voilà qui s'incline devant le Fils de Dieu. Alors même que son fils, nouveau-né, baptisé, était mort, eh bien, il accepte cette dureté de la vie, et il accepte cette croix. Et nous, parmi vous, il en est qui doivent accepter cette croix, que quatre de leurs amis aient été victimes d'une disparition inexpliquée, provoque chez vous l'inquiétude comme Marie et Joseph qui ne retrouvaient pas l'enfant Jésus au temple. Pourquoi cette méchanceté possible de priver un être de sa liberté? Pourquoi cette dureté de cœur? Et que devons-nous faire dans notre foi chrétienne? Est-ce que nous devons tout faire pour exterminer notre ennemi, pour le faire payer, pour se venger? Alors que saint Paul nous dit que Dieu lui-même punira ceux qui persévèrent dans le mal. Alors nous sommes invités à prier, à avoir confiance, à être comme l'agneau de Dieu, à être avec finesse comme sainte Geneviève, patient. La patience vient du mot latin souffrir, pâtir. Eh bien, si cette souffrance s'épanouit en récompense, en lumière, en bonheur éternel, eh bien, portons la croix. Allons et mourons avec Jésus. Et que l'étoile de la mer, la Vierge Marie, puisse nous conduire au bon port, là où nous n'aurons plus à pleurer, à être inquiets, à nous quereller, mais être dans la lumière et la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.